12h30 sur France Culture, tout de suite le journal de la rédaction. La mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel cette fois-ci de tous les syndicats atteindra-t-elle un sommet dans la rue aujourd'hui? Seule certitude, le gouvernement a lui choisi de tout miser sur la journée de demain en invitant l'ensemble des partenaires sociaux pour des discussions dans l'espoir de trouver le chemin d'une sortie de crise avant Noël. Le constructeur aéronautique Boeing a annoncé la suspension à partir du mois prochain de la production de son appareil vedette 737 Max, un vrai coup dur pour la firme américaine. Et puis quand Boris Johnson décide de dégainer contre la BBC à peine réélu, le Premier ministre britannique a décidé de lancer une double attaque contre le groupe audiovisuel public. Au 13e jour d'une grève illimitée à la SNCF comme à la RATP, décidément les jours passent et se ressemblent. Bouchons sur les routes et cohues sur les quais, mais pas seulement, puisque cette journée de mardi marque également la 3e journée de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Et si l'on ajoute encore à cela les mots de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, la réforme demeure, nous ne la retirerons pas, eh bien on se dit que pour leur penser le futur et croire notamment en une résolution immédiate du conflit relève de la gageure. Sans compter que cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites pourrait atteindre des sommets dans la rue avec la présence cette fois-ci de tous les syndicats dans les manifestations à Paris comme en région. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes actuellement place de la République d'où s'élanceront tout à l'heure les cortèges. L'objectif aujourd'hui pour le Front syndical est simple, du moins sur le papier, faire la démonstration de sa solidité. Quelle est l'atmosphère sur place, Catherine?
Écoutez, la place de la République se remplit peu à peu, les premiers cortèges syndicaux se sont installés et les forces de l'ordre ont déjà commencé à filtrer l'accès à la place. Alors se préparant à défiler et installant ballons et slogans, j'ai déjà pu croiser des adhérents de la CGT, de Solidaires ou encore de la CFDT cheminots et un certain nombre de gilets jaunes aussi venus pour certains de province. J'ai par exemple rencontré un groupe venu de Montargis pour exprimer leur colère et donner, m'ont-ils expliqué, plus d'écho à leur mobilisation en venant à Paris. Alors, vous le disiez, la spécificité de cette journée de mobilisation, c'est que tous les syndicats appellent à manifester, tous mais pas ensemble et avec des revendications différentes. Mais la conséquence, on la voit déjà sur la place, il y aura deux cortèges, ou plutôt il sera divisé en deux parties, ils sont déjà séparés les uns des autres sur la place de la République. D'un côté, CGT, Force Ouvrière, Solidaires, CFE, CGC, les organisations de jeunesse qui réclament le retrait de la réforme dans sa totalité. Un peu plus loin, les centrales dits réformistes, CFDT, CFTC, la FA, favorable au principe d'un régime universel, mais contre l'âge pivot à 64 ans. Reste que c'est la première fois que tous appellent à manifester et les chiffres de mobilisation seront bien sûr scrutés avec attention. En tout cas, le cortège doit s'élancer vers 13h30 direction Place de la Nation, en passant Thomas par la Place de la Bastille.
Merci Catherine Pétillon en direct de la Place de la République à Paris, ainsi qu'à Laurent Macchietti et Olivia Gaillard pour les moyens techniques. Alors on l'a dit, c'est la première fois depuis le début de ce mouvement contre les retraites que tous les syndicats CFDT comprises appellent à une journée de grève et de manifestation. C'est dire évidemment la pression exercée aujourd'hui sur l'exécutif. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dès hier soir, une dizaine de députés LREM ont choisi de rencontrer Laurent Berger pour tenter de renouer le dialogue de façon informelle. Et puis, au-delà cette fois-ci des tentatives de la majorité de courtiser en l'occurrence le premier syndicat français, dans la foulée de cette journée de mobilisation donc, Édouard Philippe recevra demain toutes les organisations syndicales et patronales représentatives pour des réunions bilatérales suivies d'une multilatérale cette fois-ci. Jeudi, Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors même si les syndicats présentent aujourd'hui, c'est vrai, un front uni, il n'en demeure pas moins que leurs revendications ne sont pas toutes identiques. C'est d'ailleurs précisément sur ces différences que l'exécutif espère encore jouer pour convaincre certains de le soutenir dans sa réforme. Or justement, Laurent Berger a, semble-t-il, ouvert la voie ce matin à un possible compromis.
Oui, donnez-nous un an pour faire des propositions de retour à l'équilibre. Voilà ce que dit le secrétaire général de la CFDT au gouvernement dans une interview au journal La Croix, daté d'aujourd'hui, un an pour que les partenaires sociaux établissent un plan de court, moyen et long terme, avec une condition, ne pas imposer le résultat de la négociation avant qu'elle n'ait lieu. Et ce détail change tout pour le leader du premier syndicat de France, car pour lui, aujourd'hui, la négociation est biaisée. Le gouvernement dit aux syndicats et aux patronats, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on instaurera un âge d'équilibre à 64 ans en 2027. aucune chance dans ces conditions, explique Laurent Berger, que le patronat accepte une autre solution puisqu'il appelle de ses voeux cet âge pivot. Et le patron de la CFDT de proposer une autre piste, augmenter les cotisations. Ce sujet ne doit pas être tabou, dit-il. Alors ce matin, plusieurs membres du gouvernement ont plutôt fermé la porte à cette option d'augmenter les cotisations. En revanche, la main tendue est réaffirmée. S'il y a dialogue, à mon avis, il y a solution, a notamment estimé Olivier Dussopt, le secrétaire d'État à la fonction publique. Solution peut-être au bout, mais uniquement du côté des syndicats réformistes. C'est la partition que joue le gouvernement, avec en parallèle des discussions plus ciblées du côté des transports pour tenter là aussi de casser le front syndical en choyant la CFDT et l'UNSA, premier syndicat à la RATP et deuxième à la SNCF.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors évidemment, au 13e jour donc de cette grève, la SNCF recommande, comme toujours, aux usagers d'Île-de-France de ne pas chercher à emprunter les rares trains disponibles. L'entreprise publique prévoit un trafic très perturbé avec un TGV sur 4, un Ouigo sur 4 également et un Transilien sur 5. Par ailleurs, 5% seulement des intercités circuleront ainsi que 3 TER sur 10. Mais au-delà de cette seule journée de mardi, la perspective de plus en plus proche d'un Noël sans train ni métro avec des aéroports bondés se rapproche elle aussi. Or, c'est aujourd'hui justement que la SNCF doit présenter son plan de transport pour ce week-end de départ en vacances. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs certains, l'aura du lieu, de commencer donc d'ores et déjà à s'organiser, de chercher notamment d'autres solutions pour se déplacer.
Certains persistent quand même pour monter dans un train à Paris, à la gare Montparnasse. Comme Pierrick et Marie, ils attendent un train pour La Rochelle.
On avait pris un billet il y a 2 mois, on en avait pour 60 euros à deux, donc Paris-La Rochelle. Et là, ils nous ont annoncé gentiment que c'était annulé il y a quoi, 3-4 jours. Et donc, ils nous ont invités à en prendre un autre à 260 euros. Il faut être un peu philosophe.
D'autres se débrouillent autrement. Le loueur Europcar enregistre une hausse des réservations de 33% la semaine dernière. Preuve que les usagers cherchent de plus en plus d'autres solutions que le train. Paulin de Menton dirige GetAround, anciennement Drivee. C'est une plateforme d'autopartage et les demandes explosent pour Noël.
D'habitude, on a à peu près 30% de hausse de réservations en cas de grève. Là, c'était 60% dès le 5 décembre. Et surtout pour la période de Noël, je pense que les gens étaient un peu pris de panique en voyant que la grève n'allait pas être interrompue pour Noël. Et donc, on est à 200% de réservations en plus, c'est-à-dire 3 fois plus de réservations que d'habitude. Là, clairement, il va y avoir une pénurie de voitures. D'ici 1 ou 2 jours, on pense que dans les grandes villes, il n'y aura plus de voitures du tout disponibles à la location.
Parmi les alternatives, il y a les bus. Pour Noël, Flixbus, par exemple, a déjà 50% de réservations en plus par rapport à l'an dernier. Il y a aussi les covoiturages avec Blablacar qui bat des records de réservations. Pour autant, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, promet qu'il y aura un train proposé à tous ceux qui ont d'ores et déjà acheté un billet.
Et quoi qu'il en soit, une semaine de Noël, c'est donc peu de dire que le temps presse pour le gouvernement s'il veut éviter que la contestation ne s'installe durablement, y compris dans les rangs réformistes. D'autant qu'en pleine contestation sociale et politique, et alors que le bras de fer ne fait au fond que commencer, un événement de taille est venu hier fragiliser un peu plus encore la position du gouvernement, sans que l'on ne sache d'ailleurs s'il aura un quelconque effet sur le dénouement de cette crise, la démission de son monsieur retraite, Jean-Paul Delevoye. En quelques jours à peine, ce vieux loup de mer politique devenu une figure majeure de la Macronie est passé du statut de capitaine apprécié de la réforme des retraites à celui de maillon faible. Sa très longue expérience ne lui ayant visiblement pas suffi pour se prémunir contre les soupçons de conflits d'intérêts et de cumul d'activités interdits. Alors il y a évidemment plusieurs conséquences d'ores et déjà perceptibles. Ce nouvel épisode risque une fois de plus de démontrer tout d'abord l'isolement du chef de l'État qui va devoir lui trouver un remplaçant. Ensuite, ce brusque départ est aussi dans les faits le résultat d'une crise ouverte entre Jean-Paul Delevoye d'un côté et Édouard Philippe de l'autre. Enfin, on imagine que les syndicats opposés au projet de réforme des retraites ne pouvaient pas rêver. Meilleure preuve, selon eux, du manque de sérieux du gouvernement, en l'occurrence Jean-Paul Delevoye est le 12e ministre démissionnaire. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Décidément, la liste des manquements donc à l'éthique s'allonge depuis le début du quinquennat, d'autant qu'à en croire nos confrères du journal Le Monde, Pierre, ce matin, le secrétaire général du gouvernement était au courant du cumul de rémunération opéré par le haut-commissaire.
Oui, et depuis une semaine, les enquêtes des médias révèlent les nombreux oublis du ministre délégué aux retraites. Dans sa première déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, Jean-Paul Delevoye ne déclare que 3 mandats. Correction apportée en fin de semaine dernière, on découvre alors 10 mandats de plus et surtout des rémunérations supérieures à ce qu'il avait déclaré dans un premier temps. En septembre dernier, lorsque Jean-Paul Delevoye entre au gouvernement, il est alors tenu par la loi de déclarer l'ensemble de ses rémunérations et activités. Selon le journal Le Monde, le secrétaire général du gouvernement examine alors la situation financière du ministre délégué, qu'il s'agisse de ses pensions de retraite, mais aussi de sa rémunération à la présidence d'un think tank dépendant du groupe IGS. Alors, ce cumul d'activités publiques-privées est interdit par la Constitution. On aurait dû l'en informer, explique René Dosière, le président de l'Observatoire de l'éthique publique.
Si la machine administrative avait fonctionné comme elle fonctionne traditionnellement, Jean-Paul Delevoye aurait été averti de l'impossibilité de cumuler son traitement de ministre avec une autre rémunération. On ne l'a pas averti et l'affaire est devenue publique et effectivement, il en supporte les conséquences.
Alors ce matin, l'entourage du Premier ministre affirme qu'il n'y a eu aucun manquement des services du gouvernement dans l'examen de la situation de Jean-Paul Delevoye et qu'il a bien été informé de l'impossibilité de concilier ces deux activités. Cacophonie regrettable selon Jean-Christophe Picard, le président de l'association Anticor.
Plus rien ne m'étonne, il y a quand même un certain amateurisme au plus haut sommet de l'État. Ça montre là un manque, encore une fois, de lucidité par rapport aux enjeux importants de notre époque, qui est la moralisation de la vie politique.
Alors ces manquements, ces omissions font que l'on s'interroge aujourd'hui sur le rôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui examine le patrimoine et les activités des membres du gouvernement. Haute Autorité qui doit se réunir demain et décider si elle transmet ou non ce dossier à la justice, comme le demande l'association Anticor.
Merci Pierre Neveu. Et puis pour clore cette longue page consacrée aux retraites, j'ajoute que si les cortèges verront défiler cet après-midi, cheminots, enseignants, fonctionnaires, mais aussi avocats et magistrats en grève, les internes, les médecins et les soignants seront eux aussi mobilisés dans toute la France pour réclamer davantage de moyens pour l'hôpital. Un Noël avant l'heure au Royaume-Uni pour tous les électeurs qui ont soutenu les conservateurs aux élections législatives de jeudi dernier. Fort de son écrasante majorité au Parlement britannique, Boris Johnson a annoncé que le vote scellant le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne débuterait dès vendredi, soit 24 heures seulement après la présentation de son programme législatif lors du traditionnel discours lu par la reine. Par ailleurs, plusieurs médias britanniques rapportent ce matin que le Premier ministre prévoirait d'introduire une législation empêchant toute extension de la période de transition du Brexit au-delà de l'année 2020. Et puis, s'agissant cette fois-ci de la nouvelle Chambre des communes, celle-ci doit se réunir aujourd'hui afin d'élire son président, le fameux Speaker. C'est à lui, comme l'avait fait en son temps le truculent John Bercow, que reviendra la lourde tâche de conduire les débats souvent très animés. Enfin, fort de sa victoire retentissante donc aux législatives, le bouillonnant dirigeant conservateur n'entend pas seulement presser le pas pour réaliser le Brexit, non, à peine, et le réélu Boris Johnson a visiblement décidé de s'attaquer à l'une des institutions britanniques les plus respectées, la BBC. Alors au vu de son antipathie à l'égard du groupe audiovisuel public, on ne sera pas franchement surpris. Toujours est-il que le Premier ministre ne souhaite plus que les membres de son cabinet participent à la plus grande matinale du pays. Mais pas seulement Élise de Lèves, puisque Boris Johnson entend désormais remettre en cause le principe même de la redevance.
Pour Boris Johnson, la BBC n'est pas impartiale. Le groupe audiovisuel a un parti pris, anticonservateur. Une des preuves, selon Bojo, la réaction du présentateur phare, Andrew Neil, lorsqu'il a refusé son interview.
Aucun présentateur ne peut forcer un politicien à être interviewé. Mais les interviews de politique sont une des clés des soirées électorales de la BBC depuis des décennies. Nous les faisons en votre nom pour scruter et demander des comptes à ceux qui vont vous gouverner. C'est ça la démocratie.
Un monologue qui n'a pas plu à Boris Johnson. Après l'élection, samedi, il a demandé à ses ministres de ne pas participer à la matinale de Radio 4, la plus connue du Royaume-Uni. Il aurait l'intention de leur demander de continuer à boycotter le programme. Manque d'objectivité, préférence. Pour le Premier ministre, la BBC ne mérite pas de recevoir de fonds publics. Il envisage de dépénaliser le non-paiement de la redevance. Actuellement, c'est un crime de regarder la BBC sans payer une licence. Un changement qui ferait perdre 240 millions d'euros au groupe audiovisuel. Et ce serait rapide. Cette annonce pourrait être faite lors du discours de la reine cette semaine. Le Parlement, largement majoritaire à Johnson, devra ensuite voter. Certains conservateurs sont réticents à lancer une guerre contre les médias, surtout la BBC. Le groupe reste une des institutions les plus dignes de confiance et il garde une grande influence sur ce qui fait la une dans le pays.
Y a-t-il pire épreuve pour un président que de subir une procédure de destitution ? On pourrait le penser, sauf sauf si l'on s'appelle Donald Trump, celui sur qui décidément tout semble glisser, exulte déjà selon un sondage publié hier. Sa cote de popularité a atteint un plus haut depuis le début de son mandat à 43% d'opinion favorable. Ou dit autrement, quand bien même le locataire de la Maison Blanche rejoindra probablement demain la liste d'autant plus saisissante qu'elle est restreinte des présidents des États-Unis mis en accusation par la Chambre des représentants. Tout juste cette procédure d'impeachment devrait-elle blesser l'amour-propre de l'ancien animateur de télé-réalité obsédé par son image, car pour le reste, Donald Trump le sait bien, le cas échéant, le parti républicain qui contrôle le Sénat l'acquittera sans problème. Ou quand l'issue au fond de ce long et complexe processus apparaît aujourd'hui tout aussi prévisible que les combats de catch que le locataire de la Maison Blanche affectionne tant, de quoi potentiellement faire même de ce dénouement un argument de campagne pour sa réélection en 2020. Toujours aux États-Unis, le constructeur aéronautique Boeing s'est résolu hier à suspendre dès le mois de janvier la production de son avion vedette, le 737 Max, sous le feu des critiques après deux accidents survenus en l'espace de quelques mois ayant fait 346 morts. Alors c'est la première fois en plus de 20 ans que la production d'un 737 est ainsi suspendue. Boeing n'a pas précisé la durée de l'arrêt de la production, mais quoi qu'il en soit, la direction assure qu'elle ne prévoit pas à ce stade de suppression d'emplois, même si en l'occurrence, cette décision risque tout de même de perturber la réorganisation de ses effectifs et devrait aussi durement affecter ses sous-traitants. Les précisions de notre correspondant à Washington, Grégory Phillips.
Le 737 Max, c'était jusqu'à ces deux accidents le produit phare de Boeing. Près de 5000 avions commandés à environ 120 millions de dollars l'unité, 400 en attente de livraison. Le constructeur en fabrique encore 42 par mois dans son usine de Renton, en banlieue de Seattle. Mais Boeing va donc dès janvier suspendre la production de cet appareil, et ce pour une durée indéterminée. Boeing assure qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois, mais la décision affectera évidemment les 12 000 ouvriers qui travaillent sur ce programme, ainsi que les centaines de sous-traitants qui emploient des milliers de personnes. En vérité, Boeing n'a pas vraiment le choix. Tous les 737 Max sont interdits de vol depuis 9 mois et il n'y a pour l'heure aucun calendrier de remise en service. Le constructeur, dont l'action chutait hier de 4%, traverse la pire crise de son histoire depuis sa création il y a un peu plus d'un siècle. Avec un risque aussi pour l'économie américaine, Boeing est l'un des plus gros employeur du pays et le premier exportateur des États-Unis.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi pluvieux sur la plupart des régions. Quatre départements, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne restent placés en vigilance orange crue. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Un journal raccourci aujourd'hui en raison d'un appel à la grève lancé par une organisation syndicale représentative de Radio France.